Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui aime l'odeur des films à la sortie. Salut Thomas.
Salut Thierry.
Salut Karl.
Salut Thierry.
Aujourd'hui, épisode spécial, épisode grand classique. On sort de Apocalypse Now, Final Cut.
When I was home after my first tour, all I could think of was getting back into the jungle. I wanted a mission. And for my sins, they gave me one. When it was over, I'd never want another.
Who's the commanding officer here?
Ain't you?
It's Iger!
Apocalypse Now, Final Cut. Nouveau montage pour Coppola, depuis la version Redux qui faisait 3h22, celle-ci fait 3h02. Aujourd'hui, on est là pour parler du film, parler également de sa découverte, puisque nous avions un membre de CLAC qui ne connaissait pas Apocalypse Now et qui a eu la chance du coup de le découvrir sur grand écran, là où nous n'avons fait que réitérer notre plaisir. Thomas, un petit avis avant de commencer?
Alors, il a remonté l'épisode hein, plusieurs fois, parce que c'est son ami George Lucas qui lui a donné l'idée avec Star Wars. Et du coup, moi j'ai bien aimé le Wookiee en image de synthèse dans le fond.
Et les Talkie-Walkie à la place des armes.
C'est ça. Non, alors, ouais, j'avais pas vu Apocalypse Now. Je connaissais beaucoup d'extraits, je connaissais déjà les répliques. Voilà, les extraits sont magnifiques. Je suis content de l'avoir découvert sur grand écran. Parce que c'est quand même... Il y a des scènes qui sont sublimes, des plans qui sont merveilleux. Quand ils se baladent, ils sont tout seuls dans la jungle. Et on a des plans merveilleux. Et ouais, je comprends en quoi ce film est super. Parce que c'est un peu comme toutes les voix qui sont autour de moi qui se mélangent, tu vois. Comme les gens qui passent à côté et qui parlent. Non, en fait, c'est pas que un film de guerre. Il y a ça qui est merveilleux. C'est que bon, là, évidemment, un film de guerre, on a le Vietnam, ça, ok. C'est un film d'aventure. Parce qu'on va quand même aller... Bon, petit résumé pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film. Hein. C'est quand même Martin Sheen qui est envoyé au fin fond de la jungle pour aller chercher un colonel renégat, en gros. Et il va s'enfoncer au fur et à mesure dans la folie, mais tout le monde est fou, même lui il est traumatisé de guerre. Enfin, et en fait on s'enfonce peu à peu dans la folie et on va remonter, ça va être l'aventure, il va y avoir plusieurs panneaux. Et on a aussi un petit emprunt aussi au genre du code du film noir. C'est-à-dire que en gros, bon, lui, il a une mission secrète, il doit aller buter le mec, donc il lit les dossiers, et en gros, il enquête, il découvre le personnage, et il a la voix, comme la voix d'un détective, qui te raconterait « Oui, je m'enfonçais dans cette sale affaire, et j'étais pas bien parce que j'avais vu Machine l'autre fois, et puis j'ai vu Machin, un sacré bonhomme celui-là !» Et il y a cet emprunt de plusieurs genres, ça m'a fait marrer, j'ai vu un film... En fait, c'est un film noir dans la jungle, ça m'a fait marrer. Ça fait bizarre de voir Martin Sheen jeune, d'ailleurs.
Tu dis que tout le monde est fou et c'est vrai que ça c'est assez impressionnant. Moi c'est quelque chose. Bah, moi je l'ai vu qu'une fois Apocalypse Now, donc là c'était la deuxième fois, donc ça restait un souvenir quand même assez vague parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Et c'est vrai que à partir du moment où tu rencontres tout nouveau personnage qui rentre à l'écran, tu regardes ses yeux, son regard et tu te dis ok, toutes ces personnes là, leur vie est déjà foutue. Quoi qu'il arrive, ces gens là ne pourront jamais revenir à la vie normale. Ces gens là ne pourront jamais se sortir de ça. Et on le voit au début justement avec lui qui est en train de piquer sa crise dans sa chambre d'hôtel où après t'as un gros silence où tu le vois juste hurler couvert de sang. Et voilà, c'est ça, on se dit clairement de toute manière, la folie humaine, c'est pas forcément que la guerre mais l'homme est fou par essence. Et il suffit de triturer cette folie pour qu'il le devienne réellement. Je pense que c'est aussi ça en grande partie le thème du film. Moi-même le côté film de guerre, même si on a des séquences qui le montrent énormément, c'est même juste une toile de fond quoi. Il aurait pu prendre n'importe quoi comme toile de fond pour parler de la folie humaine.
Ouais, non, la guerre, c'est une toile de fond, d'autant qu'en fait, on est dans la folie, on est complètement perdu, et tout le monde est perdu ici, d'ailleurs, bon, il y a des fumigènes partout, mais ce qu'on voit de la guerre est grandiose, parce que quand même, faut dire que ça pète. Il y a du napalm, enfin, il y a des explosions magnifiques. La scène des Valkyries, on la connaît. Les mecs qui débarquent et qui prennent d'assaut un village. Mais on voit pas grand-chose, finalement, parce que c'est assez peu lisible, les scènes de guerre, finalement, parce que tout le monde est perdu. Et on est très trouble, et c'est normal que tout le monde soit perdu dans tout ce bordel et que tout le monde pète un plomb. On a ça dans la scène de guerre, c'est très fouillis, on ne sait plus par quel côté ils arrivent, c'est le nord, l'est ou l'ouest, on n'en sait que dalle. Ils arrivent d'un côté, ils ressortent de l'autre, on survole un truc, on ne sait pas ce que c'est, ça tire dans tous les sens, mais on ne voit pas sur qui on tire. On ne voit jamais sur qui on tire, c'est la folie. Et puis après, il y a des trucs. Je sais pas si c'est la folie, si c'est des besoins de Cinoche ou quoi. Il y a des trucs aussi, on va pas chercher le réalisme non plus. Ou alors, c'est que c'est pour montrer la folie aussi. Parce qu'à un moment, on va sur un avant-poste. Donc on passe devant un avant-poste. Et il y a un putain de pont éclairé à la guirlande en pleine nuit. Ça, militairement, jamais quoi. Voilà. Si,
parce qu'il faut bien que tu vois le pont pour pas en tomber. Quand c'est un petit pont en bois qui fait à peine la largeur d'une voiture. Faut que tu le vois, et c'est pour ça qu'il est aussi facile à bombarder.
Parce que c'est juste le truc, tu sais que tu vas te faire fumer au premier soir. Quoi.
Ça fait partie des thèmes... Alors moi je vois pas la guerre comme une toile de fond, alors je le dis, Apocalypse Now c'est mon film préféré depuis environ 10 ans. Moi je l'ai pas vu qu'une seule fois avant. C'est à la fois un film sur la folie humaine, un film sur la guerre, une lutte entre le bien et le mal, l'affrontement entre la civilisation et la spiritualité ou des civilisations hippies, indigènes.
Les hippies.
Et c'est tout ça à la fois. Mais en fait, oui, Thomas, tu l'as dit, la guerre du Vietnam, ce n'est que le support. A fortiori, quand on sait que c'est une adaptation de Joseph Conrad, qui lui plaçait son action au Congo belge. Donc c'était juste transposé, et en fait Apocalypse Now, comme le bouquin Heart of Darkness, je crois au cœur des ténèbres en français, hein, tout simplement, et sont tous les deux des œuvres qui étudient l'impérialisme, enfin le colonialisme d'un côté, l'impérialisme et l'interventionnisme américain de l'autre, ces types-là qu'on sort de la civilisation occidentale pour les plonger au milieu d'un territoire où ils ont absolument rien à foutre, où ils comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, où ils ont... trop de moyens, c'était le cas des Américains. Le coup des guirlandes qui éclaire le pont, ils étaient vraiment réduits à faire des trucs comme ça, parce que quand tout ton équipement s'est fait péter, vaut mieux avoir une mitrailleuse qu'une lampe.
C'est vrai qu'après là-dessus, c'est aussi là qu'on voit qu'il y a du réalisme, c'est sur le côté, même si beaucoup d'entre eux ont quand même envie d'aller au Turpin, personne ne sait ce qu'il fait là, personne ne sait ce qu'il combat, personne ne sait ce qu'il est censé défendre. Ils sont juste là en mode, on nous a envoyé là, on nous dit qu'il faut tuer, on tue. Et ça, c'est aussi, tu disais que le bouquin, du coup, ne se passait pas du tout au Vietnam.
Il a été écrit 60 ans avant la guerre du Vietnam, donc...
Forcément, ça allait être compliqué d'en parler dans le bouquin, ou alors le mec était sacrément visionnaire.
Ah, bon joué, Conrad, hein.
Mais oui, on est surtout dans une période, en 79, où la parole commence à se libérer sur la guerre du Vietnam. Avant ça, c'était quasiment interdit de faire une critique de la guerre du Vietnam. Le premier qui a fait ça, c'était Voyage au bout de l'enfer de Cimino, qui a été fait quasiment en secret, même s'il a eu un beau budget. Et qui a lancé toute l'armada de mecs qui se sont mis en parler à la Oliver Stone pour Platoon, à la Coppola du coup pour Apocalypse Now. Voyage au bout de l'enfer essuie les plâtres de ce que va être plus tard Apocalypse Now, justement, une espèce de voyage initiatique aussi qui parle beaucoup de folie, là où c'était un peu moins maîtrisé, et là on est quand même façonné apothéose.
C'est fou la débauche de moyens qu'ils avaient. Les mecs, ils étaient complètement déconnectés de la guerre. Parce que le mec, j'adore l'odeur du napalm au petit matin. Ce qui ressort assez peu, c'est que le mec quand même est assez taré pour faire du surf pendant une bataille.
Mais ça, c'est la...
Dans le film, il apparaît être le plus sain.
C'est qu'au début, quand il arrive, on pense même que c'est un colonel droit dans ses bottes, quoi. Et là, on parle du personnage donc, de Robert Duvall. Et c'est vrai qu'après, ce qui est intéressant, c'est la manière dont justement il va nous enfoncer dans une folie de plus en plus malsaine, puisqu'au début, on trouve ces scènes assez drôles, où les mecs, ils ont juste une seule obsession, alors qu'il y a des mortiers partout, il y a des obus qui tombent dans la mer, et les gars, ils font « Allez, on va faire du surf, quoi ».
Le Docteur Follamour est une inspiration avouée pour ces scènes.
Non, mais... C'est absolument pas étonnant.
D'ailleurs, moi, ça m'a fait bien marrer. C'est-à-dire que le mec, au début, c'est le général. La première fois qu'on le voit, ils sont en train de défoncer un village, mais alors, ils le...
Il y a plus personne quasiment, quoi. On voit même un bébé blessé. Enfin, ouais, ils ont pas fait dans la dentelle, quoi.
Ils explosent un village. Ils sont là. Ils sont un peu à pied. On les voit pas utiliser les hélicos.
Il y a un tank lance-flamme.
Je veux dire, ils le maravent. Il reste que quelques civils, et il y a un mec qui agonise par terre. Il y a un Viet Cong qui agonise par terre, et puis il y a un mec qui va l'achever parce que c'est un Viet Cong. Et parce que le mec veut de l'eau et le c'est pas un général, c'est un colonel. C'est un colonel. Et le colonel, il s'approche, il fait « Non, ce mec-là s'est battu vaillamment, il a le droit de boire à ma gourde. » Il va pour le donner à sa gourde et puis là, il y a un mec qui lui dit « Ah, au fait, il y a un surfeur célèbre qui est dans le bataillon des mecs, qui est dans le régiment des gars qui est... » Quoi ? Le mec, il fout l'eau en l'air. Il laisse le gars qui agonise et il va voir le surfeur.
Non, voilà, donc c'est pour ça qu'au début, même si c'est extrêmement dérangeant dans le fond, la forme fait que ça passe. Et puis au fur et à mesure, plus la folie avance, plus elle devient malsaine, plus elle devient graphique aussi.
Et elle fait moins rire. Hein.
Et elle fait beaucoup moins rire. Et au fur et à mesure qu'il y a des élans de folie, on est de plus en plus mal à l'aise, quoi.
Et moi d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez au tout début, j'ai une analyse légèrement différente, enfin avec une subtilité, c'est que ils sont pas tous fous. Mais les seuls qui restent sains meurent. T'es obligé de dépasser ta santé mentale ou un certain état de conscience pour pouvoir survivre à ce voyage tellement il est profond et violent.
Ouais, parce que les mecs qui sont un peu pressés, on avait le pilote du bateau, mais effectivement, lui il est relativement sage, mais...
Il est droit dans ses pompes, quoi. Il veut surtout protéger ses hommes.
Et son bateau.
On a les thèmes de l'obsession. Moi j'ai reconnu du coup vachement Coppola là-dessus. Mon film préféré de Coppola, c'est Conversations secrètes. On a quand même un mec qui va s'écouter une conversation en boucle pendant 2 heures en se demandant quel est le coup fourré à l'intérieur. Et donc du coup, là, le fait qu'il se repasse en boucle les lettres, les petits passages audio qu'il peut avoir, enfin toutes les idées qu'il a de ce commandant en essayant de se faire justement s'approprier sur ça, ça joue aussi vachement sur l'obsession qui fait énormément part de la folie, quoi. Mais du coup, on est aussi là pour parler du fait que c'est ressorti aujourd'hui en 2019 dans une nouvelle version. Donc là, je vais me tourner vers Karl, qui va peut-être être plus pertinent là-dessus. Qu'est-ce qui a été retiré ? Qu'est-ce qui a été rajouté ? Et qu'as-tu pensé, toi, de cette version, vu que tu connais très bien les deux principales ?
Voilà, les deux officiels. Il y a un troisième cut qui est un bootleg qui tourne sur le net, qui fait, je crois, un truc genre 280 minutes, ou enfin, c'est complètement abusé. Ça, je ne l'ai pas vu. Alors, à moins que je me trompe, il n'y a rien d'enlevé par rapport à la version ciné de 79. Les retraits viennent tous de la version Redux qui avait rajouté une heure de film. Et donc là, on a retiré 20 minutes sur la une heure de film. Donc on est passé 3h22 à 3h02, je crois que tu le disais au début. A notamment été gardé, et ça j'étais très rassuré, la scène de la plantation française, qui est une scène qui explore à la fois un autre impérialisme que celui des Américains, et qui en plus cette fois se rapproche de l'impérialisme de Conrad, puisque c'est le colonialisme. On voit donc ces Français, alors pour ceux qui n'ont soit pas vu le film, soit pas vu la version Redux, qui sont en fait des anciens colons et qui ont décidé de rester là, que c'est leur plantation, que c'est là qu'ils sont nés, qu'ils vont pas quitter leur terre. Et sauf que à l'époque, les Vietcong, ils étaient plus trop chauds pour qu'il y ait des Blancs qui restent, quoi. C'était pas exactement l'ambiance. Et on voit ces discussions à laquelle Willard, le personnage de Martin Sheen, assiste, parce que tout au fil du film, Willard est un spectateur. Il n'y a que à toute fin qu'il prend une décision. Et encore, lui-même dit qu'il reste manipulé par tout le monde. Donc on assiste avec lui à cette conversation. Ils ont pris les acteurs français pour jouer les Français.
Oh, ça fait plaisir.
Ce qui était très très rare à l'époque en plus.
Mais, ça fait tellement plaisir. C'est tellement agréable.
J'ai revu Heart of Darkness et Ford Coppola voulait foutre les Français sur le cul en fait. Il voulait qu'un Français regarde ça et fasse 100% legit. Bon, Diego qui joue de l'accordéon derrière, c'était peut-être un peu exagéré.
Oui, ça c'est too much. Oui.
Mais bon, en soi, c'est pas inimaginable. Moi, j'ai jamais vécu dans une plantation coloniale. Donc, c'est peut-être imaginable. Et en fait, ils ont fait venir des acteurs de Hong Kong, de Taïwan, mais ils voulaient des Français. Et il a dit, c'est trop cher pour qu'on les fasse venir de France, mais s'il faut, on les fera venir de France. Mais vous me prenez les moins chers à ramener maintenant. Donc cette scène reste, et j'avais eu très peur parce que... Donc, 20 minutes ont été enlevées du montage et cette scène dure pile 20 minutes. Donc j'ai eu très peur qu'ils enlèvent juste cette scène qui pour moi était très importante. Qui a été vraiment retirée du Redux, il y a notamment la deuxième scène où on voit les Playboy Bunnies, qui est une sorte de continuation qui n'était pas très nécessaire et qui, même narrativement, aura apporté un détail que le spectateur peut remplir par lui-même sur le personnage de Lance qui commence à se camoufler le visage et qui commence à devenir taré après avoir pris de l'acide. Et une autre scène qui avait été tournée quand il y avait eu le typhon qui a saboté le tournage pendant plus d'un mois en 76. Et sous la pluie, une pluie battante, une autre scène qui n'apportait pas grand-chose à part qu'on voyait les hommes du bateau commencer à se battre sans la moindre raison, enfin commencer à céder un peu eux-mêmes à la folie. C'était pas la scène la plus nécessaire à regarder. Après quelques petits extraits, j'ai l'impression qu'une ou deux scènes ont été raccourcies de quelques dialogues inutiles. Faudra que j'en revoie en fait, parce que bon, avant de. Je vous ai bassiné avec ça, avant de voir le Final Cut, j'ai revu les deux versions précédentes, j'ai revu le documentaire Heart of Darkness et j'ai lu le bouquin. Donc là, j'ai beaucoup d'images d'Apocalypse Now qui se chamboulent dans ma tête, donc faudra que j'en revoie. J'ai passé 3 heures extrêmement satisfaisantes. Enfin, j'ai revécu l'expérience, en plus j'ai pu le voir pour la première fois de ma vie sur grand écran, mon film préféré, ça fait toujours. Enfin, ça m'a fait un petit truc quoi. Non, là j'ai l'impression que ça serait la version la plus forte. En tout cas au niveau de la narration, la première fois que j'ai vu j'étais assez jeune, il y avait quelques trucs que j'avais pas forcément intellectuellement compris, que je ressentais où ça allait mais j'arrivais pas à me le formuler. Et je pense que mon moi de 14 ans s'en serait mieux sorti avec cette version. Pour moi le film est tellement bon dans ces trois versions, on peut voir les trois et on passera pas une mauvaise expérience. J'attends de voir celle de 280 minutes et je reviens vers vous.
Ouais, c'est 3 heures qui sont très très intenses. Moi, j'y suis allé dans des conditions où j'étais très fatigué. Je me suis dit, bon, 3 heures, je sais même pas si je vais tenir la première heure. Et j'ai été happé tout du long. Il n'y a pas eu une minute où j'ai décroché de ce film, quoi.
Pourtant, le rythme n'est pas rapide.
Ouais, mais il y a une espèce d'aura qui se dégage constamment. Ne serait-ce qu'après, même dans l'image, quoi. Enfin, l'image est tellement, c'est tellement beau à regarder.
C'est magnifique sans être poseur. Le plan est beau sans qu'on s'y attarde. Il est juste bien foutu. Et putain, quand on connaît les détails de production, que le film soit seulement regardable, c'est déjà un putain de miracle. Mais que ce soit un chef-d'œuvre, c'est. Je sais même pas comment. Cinématographiquement, ça n'aurait pas dû arriver, ça.
Non, mais c'est ça, c'est qui tout double. Tu vois, dans des conditions pareilles, c'est qui tout double. C'est soit c'est un naufrage, soit c'est génial. Tu vois, c'est. Non, mais. Il n'y a pas de juste milieu.
Et tu regarderas Heart of Darkness, et tu vas halluciner.
Ouais, moi aussi, je me suis régalé pendant 3 heures. Alors moi, ça, je le mettrais ouais, à côté, dans mes films préférés, à côté de 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'ils ont le même point commun, c'est que sur la fin, bon, j'accroche moins sur la fin.
La fin a toujours été un problème sur ce film, il y a eu plusieurs fins différentes.
J'ai l'impression que la fin, fallait finir, donc on se débrouille comme on peut, on bidouille ça, et puis Marlon Brando est un peu chiant, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça.
Il y a toute une histoire.
Il y a toute une histoire derrière, voilà, donc la fin, il se dépatouille comme il peut. Mais sinon, ouais, non, sinon c'est un régal, c'est un régal, on va pas passer les 3 heures.
Enfin, on sent passer du temps, mais tu sais, j'ai eu ça, par exemple, avec... La Danza de la Realidad de Jodorowsky ou avec quelques autres films comme ça où on était au premier rang et donc vraiment on était dans le film, enfin on prenait ça en pleine gueule et en sentant le temps passer tu l'acceptes complètement quoi.
Ouais mais en même temps t'as l'impression de remonter le fleuve avec eux aussi tu vois. T'as cette impression de temps qui passe parce que aussi il y a le temps qui passe quoi, les mecs se font chier quand même sur le bateau quand c'est pas la guerre on s'emmerde hein.
Et cette espèce d'aura aussi, ouais, tu la sens beaucoup dans ce genre de film initiatique, de voyage aussi. Puisque avant le film, on a eu la bande-annonce de Ad Astra. Moi, ça m'a fait penser à The Lost City OZ, qui justement est pareil. C'est des gars qui remontent à la recherche d'une cité perdue. Et ça se passe beaucoup sur un fleuve.
Comme Anaconda.
En mieux. Et moi, du coup, là, moi, quand j'ai revu le film, parce que quelque chose qui était plus frais dans ma tête, ça m'a fait beaucoup penser. Alors, je sais pas si Coppola s'en inspirait, mais c'est possible. Ça m'a fait penser à Aguirre, la colère de Dieu, d'Herzog.
C'est exactement à ça qu'il a pensé. Ouais. C'est manifestement, quoi. C'est une des grosses.
Mais ouais, non, voilà. Bah, en même temps, voilà, des gars qui remontent un fleuve à la recherche d'un objectif perdu dont ils ne comprennent pas l'enjeu et tombant tous peu à peu dans la folie. Voilà, on est dans le même genre de thématique. Ouais. Et c'est des thématiques qui fonctionnent, du coup, parce que là, déjà, on cite 3 films qui sont excellents.
Oui, ça va.
Voilà, ça va plutôt bien.
Moi, j'ai pensé à Predator, ça n'a rien à voir. C'est quand il dit, bon, là, vous me rasez tout sur 100 mètres. Oui. J'ai pensé à Contact.
Predator est aussi dans le top 10 de mes films préférés.
Non, mais c'est ça. Bon, après, ça n'a rien à voir. C'était juste pour le délire. C'était l'association d'idées un peu rapide.
J'aimerais juste mentionner un... 3e film de mon top 10, Conan le Barbare, qui a été réalisé par John Milius, qui a écrit le premier script d'Apocalypse Now, et qui en fait a été un peu tenté par un de ses profs quand il était à l'école de cinéma pour apprendre à être scénariste, qui lui a dit « Personne ne peut faire une bonne adaptation de Heart of Darkness de Joseph Conrad. » Donc lui, il a fait « Hold my beer, je vais t'en faire une. » Et donc ils se sont mis d'accord avec Coppola, et il a écrit le script, et Coppola est repassé derrière. Le changement principal, c'est la fin. parce que la fin de Milnews, c'était génial. Hein. Il voulait que Willard et Kortz s'allient et repoussent à eux deux les bombardiers américains qui auraient été appelés sur la base et meurent en héros en même temps, pour que tout se fait raser. Donc Coppola a dit non, parce qu'il a un peu de bon sens. Et au début, ça devait être Lucas qui devait le réaliser aussi. Pas le seul rapport entre Star Wars et Apocalypse Now. Salut Harrison. C'est bizarre de voir Indiana Jones. Moi, à chaque fois, j'oublie qu'il est là, parce qu'en plus, il a un rôle mineur et que c'est juste au début. Mais alors, je sais pas si t'étais au courant qu'il y avait Harrison Ford.
Oui, tu me l'avais spoilé.
Alors, autant Harrison Ford, c'est vrai que ça fait bizarre, surtout qu'en plus, oui, on le voit très peu. Autant celui qui est vraiment surprenant, pour le coup, parce que, ben, et c'est pas qu'il a disparu de la circulation, mais c'est que nous, vraiment, dans l'image qu'on a eue, où on l'a connu déjà assez âgé, c'est Laurence Fishburne.
Qui avait 14 ans à l'époque, qui a menti sur son âge pour pouvoir faire le film, comme beaucoup de soldats américains ont menti sur leur âge pour pouvoir s'engager.
Voilà, on a quand même... C'est un marmot, quoi. Alors, il a les mêmes traits de visage, hein, on le reconnaît. Quand on sait que c'est lui, je pense
qu'il est moins bouffi.
Il est moins bouffi. Et si, même pareil, quand tu vois... Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Dennis Hopper jeune aussi.
Ouais.
Voilà, depuis... Enfin,
bah, je me suis refait Easy Rider, moi, récemment, et tu sais pourquoi.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on pensait...
Fucking Dennis Hopper.
C'est vrai que moi, je pense à Dennis Hopper. Pour moi, c'était le méchant de film américain sur sa fin de vie. Et du coup, bon.
Super Mario Bros, le film.
Également, je veux dire, Speed aussi, tu vois. Même période.
T'étais à l'autre bout de la rangée, mais je t'entendais mort de rire quand Dennis Hopper ouvrait sa gueule. Il a de ses dialogues. Quand ils arrivent et qu'ils commencent à faire... Ouais, il a coupé des têtes. Ouais, non, mais il était dans un mauvais jour. Tu serais venu il y a deux jours.
Apocalypse Now, que ce soit la version cinéma, la Redux, la Final Cut, comme l'a dit Karl, on vous le conseille. Vous avez la chance de peut-être le voir au cinéma, ça va pas rester longtemps. Foncez. Le genre de film d'une vie, il a 40 ans. Évidemment qu'il a un grain d'image différent, mais il a pas pris une ride.
Il a été remis en 4K pour la première fois à partir des négatifs originaux. Donc ça sera la meilleure qualité d'image que vous pourrez avoir pour Apocalypse Now.
C'est ça. Alors après, connaissant la distribution vers chez moi à Béziers, je sais que... Bon, il faut foncer. Mais... Non, il sera pas en VF, non. Mais si jamais il passe un jour près de chez moi ou sur Montpellier, enfin, il va arriver avec des semaines de retard et il sera mis, je sais pas, à 22h. Non, 22h, ça fermera trop tard parce que le film c'est 3h. Il sera mis dans un coin quelque part. Sinon, ouais, comme il y a une magnifique qualité 4K, bon, j'imagine que ceux qui ont un écran de la mort ont déjà pré-réservé le Blu-ray ou je ne sais quoi, ou la VOD ou quoi.
Je sais pas du tout si c'est le cas en France, mais aux États-Unis ils l'ont sorti sur certains IMAX. Donc il faudra voir si c'est pas dispo en France aussi.
Guettez les sorties d'Apocalypse Now si vous avez l'occasion de le voir en salle. Sinon, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le à la maison. Voilà. Après, un conseil qui dure depuis maintenant 4 décennies et qu'on en remet une petite couche. Regardez Apocalypse Now.
L'une des palmes d'or les plus méritées.
C'était certain, les machos. Il est tard, on est fatigué, on va pas tarder à se rentrer. Merci Thomas.
C'est Sisyane, on peut le dire. Merci Thierry.
Merci Karl.
Beautiful friend.
On peut le dire aussi.
On peut le dire aussi. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On vous embrasse. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Peinture de guerre.
L'horreur. J'aurais dû faire ça à la sortie de ta assaut.
Folie notoire. Guerre.
Tu peux parler plus fort même en chuchotant. Hein.
Ouais, mais attends, je sais pas comment amorcer le truc, donc c'est pour ça.
Bah, tu pourrais dire que tu aimes l'odeur des films à la sortie. Ou alors, sinon, tu peux dire bienvenue dans...
Ou de la pellicule.
Ouais. Je sais pas pour vous, mais... J'adore l'odeur de la pellicule au petit matin.
Non, là, on dirait vraiment perversé.
Là, ça sonne sale. Là. Ça
ah, bah oui, mais attends, sale. Enfin.
Non, un petit truc du style. Bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui adore l'odeur des films à la sortie.
Non. L'émission qui termine les films avec extrême préjudice.